nos sélections.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
Bon alors, monsieur Renaud, avec la mer, on l'imagine tout à fait en ciré jaune en train de chanter ça. Hein
oui, absolument. Ah, les vagues qui les rendent directement dans la gorge.
Voilà, c'est pour ça qu'il a une voix comme ça.
C'est le sel.
C'est le sel qui doit faire ça, oui.
Absolument.
Ou peut-être aussi le whisky et le rhum.
Oui, mais les rhums, c'est normal, parce qu'il y a même une route maritime qui s'appelle la route du rhum.
Voilà.
Tout est lié.
Donc, vous avez deviné qu'on va parler de la mer.
Oui, tout à fait. Cette sélection va parler de la mer et puis des marins. Et puis, c'est aussi un clin d'œil à Marc qui va prendre la grande croisière.
Ouais,
la grande croisière. Maintenant.
Absolument.
Donc, comme Marc va partir sur son voilier, un petit peu, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire.
Évidemment qu'on va naviguer, ça c'est clair.
Voilà,
donc il faut que je m'inspire un petit peu, donc c'est bien.
Voilà.
Comme tu fais une sélection comme ça pour moi, c'est sympa, j'apprécie.
Écoute, c'est un plaisir. Donc cette sélection qui est une sélection un peu avec un certain air marin et d'aventure. Bien sûr, parce que qui parle de mer parle inévitablement, à un moment ou à un autre, d'aventure. Et à moins qu'on aille juste se mouiller les pieds et puis partir, mais autrement...
Mais il n'y a pas de quoi écrire un bouquin pour ça.
Oui, absolument.
Ça vaut pas la
comment
peine.
Je me suis mouillé les pieds. Donc, peut-être le nouveau roman, un livre du nouveau roman, mais ça c'est... Ouais. Donc, cette sélection, qui comporte un certain nombre d'auteurs un petit peu différents, va commencer par un livre d'un auteur qui est connu comme romancier, un auteur qui était d'ailleurs d'origine polonaise, mais qui est parti en Angleterre, qui écrit en anglais, et qui est connu sous son nom anglais de Joseph Conrad. Joseph Conrad, qui, on sait, a été aussi marin pendant longtemps. Pendant 20 ans, il a été marin, il a été navigateur. Il a écrit beaucoup aussi sur la mer et les marins. Mais dans ce livre qui s'appelle Le miroir de la mer, et c'est pas un roman, il parle de sa relation avec la mer, avec les marins, avec les ports, avec les aventures, et avec beaucoup d'amour, mais aussi avec ces aspects qui peuvent être un peu plus douloureux, un peu plus compliqués. Donc, ce livre de Joseph Conrad, avec lequel j'inaugure cette sélection, et il s'appelle « Le miroir de la mer » et il est disponible avec le numéro 65628. Je commence par un nouveau, mais qui n'est pas tellement nouveau, sauf qu'il a été enregistré récemment. Donc, 65628.
En deuxième titre.
Alors, en deuxième titre, là, on parlait de l'aventure, justement, et... C'est un livre d'un auteur aussi anglophone, mais on aura plein de Français tout à l'heure, qui s'appelle Dougal Robertson. Et le livre s'appelle « Survivre, l'extraordinaire odyssée de la famille Robertson ». Je ne sais pas si tu connais ce livre.
Non, pas du tout.
Ah, mais voilà, ça c'est découvert.
Non, mais je pense que je vais en découvrir plein.
Ouais, tu connais peut-être plus que moi par rapport à ce livre marin. Mais bon, en l'occurrence, celui-là, c'est... Et Robertson, c'était barre et sa famille. Alors, on est dans les années 70. Et il part dans son schooner, qui s'appelle la Lucette, et avec sa famille. Donc, ils sont écossais, ils vont faire les tours du monde. Et ils se retrouvent en plein océan Pacifique, qui n'a que des Pacifiques que les noms, et avec des épaulards. Tu sais ce que c'est les épaulards ?
Oui, tout à fait.
Ah, ouais, donc, des orques, pour ceux qui... enfin, un type d'orque, en tout cas. Mm-hmm. Et il s'est fait attaquer par ces bestioles. Et puis, il s'est fait renverser son yacht. Et puis, il faut survivre. Comment on va survivre ? Et justement, ce livre, il permet non seulement il raconte son histoire, ses aventures, plutôt ses mésaventures, mais Et aussi, il donne, enfin, par la force des choses, ça pourrait t'intéresser justement, des conseils pratiques sur comment survivre en haute mer. Alors, ça peut être, si jamais tu te lances, tu vas vers le large, ça pourrait être utile du point de vue pratique aussi.
Tout
donc,
à fait.
Donc, Dougal Robertson s'appelle Survivre, l'extraordinaire odyssée de la famille Robertson, et il est disponible avec le numéro 1467.
Oh, c'est pas d'aujourd'hui.
Oui, non, c'est pas d'aujourd'hui. 1467.
Toutes les solutions me paraissaient sans espoir, et mon tourment pour choisir la moins mauvaise devait se lire sur mon visage. Lynn se pencha dans ma direction. Il faut nous dire où nous en sommes. Nous tenons à savoir la vérité, dit-elle. Les autres acquiescèrent d'un signe de tête. Quelles sont nos chances, ajouta-t-elle. Dans l'impossibilité de leur avouer qu'ils allaient tous mourir, j'exposai lentement les diverses éventualités, et soudain je compris qu'il ne nous restait qu'une possibilité. Il fallait naviguer en profitant de l'alizé et gagner la zone des calmes, située à 400 miles plus au nord. Les chances de faire tête sur une terre quelconque étaient bien minces, mais de la sorte, nous pourrions à tout le moins nous placer sur la route suivie par les bâtiments de commerce. Deux raisons dictaient ce choix. En faisant route dans cette direction, nous pourrions éventuellement récolter un peu d'eau de pluie, et nous pourrions aussi, peut-être, apercevoir une île. Autre avantage, nous combattrions pour vivre, ce qui valait mieux que de se laisser mourir dans l'oisiveté.
Troisième titre, après la survie.
Alors, après la survie, on a la vie, on a la délicatesse, le plaisir de la mer, bien que la mer, évidemment, comme toujours, soit dangereuse, comme parfois celle qu'on aime.
Mais c'est ça qui la rend belle.
Exactement. Et donc, on est en France, c'est un livre d'Hervé Hamon, qui est un grand amateur de la mer, qui essaie de nous expliquer dans ses livres pourquoi il ressent tout ce qu'il ressent en étant proche de la mer et en naviguant. Et justement, le livre s'appelle tout simplement « Besoin des mers ». Et il est disponible avec le numéro 17107.
Hervé Hamon a entrepris, dans ce livre à la première personne, de décrire et partager son besoin de rivage, de marée, d'île, de navigation, de port. Il nous convie à voyager d'Ouessant aux brumes de Terre-Neuve, des icebergs du Groenland aux montagnes marines de la Crète. Il nous convie à emprunter la mer pour toucher terre. Il dit « sa Bretagne », où il est solidement ancré, mais il n'est pas chauvin. La mer, et la mer seule, fait le tour du monde. Être marin, écrit-il, c'est s'exercer à partir. Il s'adresse à tous ceux, navigateurs ou paysans, citadins ou gens de la houle, qui vivent une passion, en goûtent le plaisir et se savent mortels. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aiment le large.
Au quatrième titre.
Alors, au quatrième, on a un grand classique. On en avait parlé. Et puis, je me suis dit que, oui, c'est un livre qu'il faut qu'il soit quand même dans toute sélection, bien qu'on essaie quand même de sortir un petit peu de Sentier Battu. Mais là, en l'occurrence, le livre lui-même, il sort de par sa force de Sentier Battu. Et c'est les grands... Moby Dick de Herman Melville. Parce que, oui, évidemment. Alors là, il y a c'est la mer et puis les créatures. Hein. On avait vu tout à l'heure les orques qui ont attaqué. Donc c'est pas que de la fiction. Hein, c'est. Et puis là, en l'occurrence, c'est un livre qui a une dimension, bien sûr, métaphysique parce que c'est Capitaine Ahab qui va chercher cette baleine, ou plutôt ces cachalots blancs par toutes les mers avec tous ces personnages, tous ces questionnements sur les qui est métaphysique presque sur la vie, la mort, le bien, le mal, l'assistance de Dieu, etc. Et donc c'est un classique qui peut-être a été lu par tout le monde, mais si c'est pas le cas, il faut les lire, l'écouter. Moby Dick de Herman Melville. Qui a été enregistré il y a quelques années et qui est disponible avec les numéros 13935.
Considérer le cannibalisme universel de la mer. dont toutes les créatures s'entre-dévorent, se faisant une guerre éternelle depuis que le monde a commencé. Considérez tout ceci, puis tournez vos regards vers cette verte, douce et très solide terre. Ne trouvez-vous pas une étrange analogie avec quelque chose de vous-même? Car de même que cet océan effrayant entoure la terre verdoyante, ainsi dans l'âme de l'homme se trouve une Tahiti pleine de paix et de joie, mais cernée de toutes parts par toutes les horreurs à demi connues de la vie. Ne poussez pas au large de cette île, vous n'y pourriez jamais retourner.
En cinquième titre.
Alors, en cinquième, on a, là, on est dans les, ces grandes familles, quand je dis famille, dans le sens élargi, hein, dans le sens de l'amour pour la mer des Françaises. Donc, c'est un livre d'Olivier de Kersauzon, qui, si on connaît.
Navigateur.
Un navigateur, oui, connu, qui écrit plutôt bien d'ailleurs. Et Olivier de Kersauzon, il raconte dans ce livre qui s'appelle « Vieil océan » son tour du monde en solitaire, sur un trimaran. Bien entendu, il y a toute la question de la mer, de ce qui se passe dans un bateau comme ça quand on navigue en solitaire. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a avec une langue qui est, dont on reconnaît l'attirance, l'amour, les rapports intenses avec la mer, il parle justement de cette beauté, et par fait des réflexions sur justement l'essence de la vie, sur plein de choses qui ont un rapport avec sa propre vie et avec la mer. Donc, c'est un livre qui est proche et en même temps qui ouvre des horizons, dans tous les sens du terme. Ça s'appelle « Vieil océan » et il est disponible avec les vénérables numéros 5329.
Je ne l'apprendrai que beaucoup plus tard, en fait, après mon retour. Il est très exactement 11h52 quand je passe l'alignement du phare du Petit Minou et de la bouée des fillettes qui sert de ligne de départ. 11h52 le 28 décembre 1988. À ce moment précis, je sais que je coupe la ligne, mais je ne la vois pas. Je n'ai pas consulté le chrono, laissant cette tâche à mes équipiers embarqués sur la vedette qui m'accompagne jusqu'à la sortie du port. Depuis 7 heures ce matin, nous avons préparé tous ensemble mon appareillage. Entouré de mon équipe, dans mon bureau entrepôt encombré de cordages et de cartons, au rez-de-chaussée d'une grande maison face au port, je repassais dans ma tête la liste du matériel embarqué, la liste des vivres.
En sixième.
Alors en sixième, on a aussi un peu plus près de chez nous au niveau du numéro, mais c'est aussi un navigateur connu. Souvent des navigateurs ont la famille qui sont aussi des navigateurs, qui sont aussi des aventuriers. En l'occurrence, c'est un livre d'Yvan Brugnon. Le livre lui-même s'appelle « Gladiateur des mers ». Et puis, Yvan Brugnon, qui a fait plein de courses, on parlait de la route du Rhum tout à l'heure, mais voilà, c'est... il en a fait entre autres, celle-là. Ouais. Et il en a probablement bu aussi un coup, plusieurs. Et alors, il a décidé, il y a quelques années, en 2013, de faire le premier tour du monde en voilier non habitable, c'est-à-dire voilier où tu ne peux pas te cacher, là, ce n'est pas fait pour. Quoi. Mm-hmm. Donc, le voilier en voilier non habitable, un tour du monde, et en plus, sans rien comme aide technique. Sans pas de GPS, pas de données météo, pas d'assistance, pas tout cet appareillage qu'ont les navigateurs quand ils font les tours du monde. Là, il n'a rien. Juste son instant et ses cartes, vieilles cartes papier, là, comme ça.
Et puis son sextant.
Et voilà. À la dure. Mm-hmm. Et oui, là, son sextant. Et puis, voilà. Et puis, il est parti, comme ça, 55 000 kilomètres, il a fait. Les gaillards. Et puis, je ne sais pas si ça te donne envie. Mais, en tout cas, c'était douloureux. Et bon, il a fait. Donc, de là, les noms du bouquin, qui s'appelle justement « Gladiateur des mers ». Toujours ces combats, c'est toi des combats. Parfois on aime, mais on aime bien combattre aussi. et il est disponible à le numéro 36018.
Navigateur de légende, intrépide, incassable, Yvan Bourgnon a participé aux courses les plus prestigieuses, de la Transat Jacques Vabre à la Route du Rhum. Spécialiste du catamaran de sport et toujours en quête de nouveaux défis, il choisit d'embarquer le 5 octobre 2013 à bord de sa coque de noix préférée, ma Louloute, pour relever un pari totalement fou, le premier tour du monde en voilier non habitable. Ce tour du monde, il va le boucler en naviguant à l'ancienne, sans assistance, sans données météorologiques et sans GPS, ne comptant que sur ses cartes traditionnelles, son sextant et son intuition. Contre tempêtes, pirates et coups du sort, Yvan Bourgnon a tenu bon et parcouru 55 000 km seul autour du monde. Il a survécu à la déshydratation, échappé à des multiples collisions avec des cargos, surmonté le découragement en trouvant les fonds pour reconstruire son bateau disloqué et repartir boucler les 10 000 derniers kilomètres de son incroyable odyssée. Arrivé le 23 juin 2015 à Ouistreham, il verra sa belle aventure endeuillée quelques jours plus tard par l'annonce du décès de son frère, Laurent.
En septième position.
Alors, en septième, on a un Suisse. On a un Suisse qui est... Enfin, Genevois, mais oui, Suisse quand même. Et donc, il s'appelle Thierry Jean-Louis Courvoisier. C'est un scientifique, c'est un astrophysicien, qui est aussi un navigateur. Et puis, il va faire... en voyage dans l'Atlantique du cercle polaire jusqu'à l'équateur, et il va, dans ses livres, bien entendu, parler de son voyage, mais parler aussi de la nature, de ses connaissances scientifiques sur l'univers, parce qu'il étudie, il regarde aussi, c'est pas qu'un voyage de loisirs, et ils ont eu d'ailleurs des problèmes techniques, on parlait de GPS tout à l'heure, bon, il y a aussi des problèmes avec son GPS, mais il en avait quand même. Et il se guide, parce que c'est un astrophysicien, aussi par les astres, qu'il connaît très bien. Ça lui a permis aussi de se guider à travers l'océan. Donc il raconte ses expériences, ses réflexions sur tous ces sujets, que ce soit purement techniques ou d'autres plus philosophiques. Ça s'appelle « Cérès en Atlantique, récits et réflexions d'un Suisse en mer ». Et il est disponible avec le numéro 19624.
Les choses se sont gâtées à quelques heures de l'arrivée. Le ciel s'est assombri. Des éclairs, beaucoup trop fréquents à notre goût, sont venus l'illuminer. La pluie est arrivée en cataracte, nous cachant la côte. Le vent a suivi, 30 nœuds, force 7. Le phare qui marque l'extrémité de l'île ne fonctionnait pas. Seuls les feux rouges et verts de l'entrée du port étaient visibles, et encore, ils ne clignotaient pas comme ils auraient dû. Pour couronner le tout, le GPS du bord a perdu son signal, et donc notre position. Heureusement, le vent a diminué, et je savais où nous étions. La nuit, Jupiter se reflétait sur l'océan, alors que le lever du soleil était précédé par l'apparition de Saturne, Vénus et Mercure. La Voie lactée traversait le ciel d'un horizon à l'autre, par-dessus le mât et la voilure de Cérès.
Huitième titre.
Alors, le huitième titre, et là on reste en France, et c'est un livre de Bernard Moitessier. Bernard Moitessier, il a... décidé de faire un voyage, long voyage dans l'océan Indien. Et on avait parlé de Pacifique, de l'Atlantique, là on est à l'océan Indien. Et Bernard Moitessier, il a trouvé un junk, ces bateaux orientaux asiatiques, et qu'il a retapé. Et puis il est parti dans l'océan Indien avec peu de moyens. Qui a quand même un sextant, bien sûr, et il part en plein mousson.
Donc pas forcément des temps très cléments.
Non, c'est le cas de dire. Et évidemment, la jonque s'échoue prend un joli, j'imagine que pour ceux qui font la plongée, extrêmement magnifique banc de coraux, mais peut-être pas pour les bateaux. Et là, il tombe, c'était l'atoll de Diego Garcia, les îles de Diego Garcia, donc, magnifique pour la plongée, mais pas pour les navigateurs légèrement distraits. Alors, il arrive à sauver sa vie, malgré tout, et puis il décide de reconstruire son bateau, cette fois-ci, pour partir vers d'autres terres où il y a des magnifiques barrières de corail aussi, mais un peu dans notre latitude, les Antilles et l'Afrique. Donc c'est Bernard Moitessier, Vagabond des mers du Sud, et il est disponible avec le numéro 20627.
Marie-Thérèse, cette belle jonque en ferait rêver plus d'un. Bernard Moitessier en est tombé amoureux. Une cantine métallique, un matelas cambodgien, un sextant, et le voilà parti à l'assaut de l'océan Indien. Condition bien précaire pour affronter 85 jours de mousson. Les éléments auront raison de sa témérité. La jonque ne résistera pas aux bancs de coraux de l'atoll de Diego Garcia. Le jeune marin sauve sa vie, mais se retrouve sans ressources. Courageux, optimiste, il travaille 3 ans pour réaliser son rêve, construire Marie-Thérèse II et rejoindre l'Afrique et les Antilles. Bernard Moitessier, 1925-1994, était passionné de navigation depuis sa plus tendre enfance. Son livre retrace une partie de ses voyages dans un style à la fois technique et romanesque. Pour ce marin chevronné, construire et commander le bateau de ses rêves était à la fois un but en soi et le moyen d'atteindre les grands vents de la liberté.
Yes. 9e titre.
Alors, le 9e titre, c'est de la famille Tabarly. C'est Patrick, Patrick Tabarly, qui est bien entendu un frère aussi qui était marin. Et puis Eric. Alors, le livre de Patrick, il parle de lui et de son frère, que ça s'appelle justement Frère des mers, enfin des mers avec M-O-R, bien sûr. Toujours l'ambiguïté de ces mots, qui est la mer et la mer nourricière et la mer génératrice. Alors, Patrick Tabarly, il parle de son histoire, c'est des navigateurs dans l'apogée de la voile française, et pas de ce rapport avec son frère, bien entendu, et toutes les aventures qu'ils ont vécues ensemble. Donc c'est un livre qui a une certaine, intimité. Donc ça s'appelle Frères des mers, et il est disponible au numéro 38122.
Patrick Tabarly est un homme discret. Il n'en est pas moins un témoin privilégié, comme Éric, son frère aîné. Il a connu les grandes heures de la voile française de la fin des années 1960 au début des années 1980. Il a surtout partagé au plus près le quotidien du premier marin de France, disparu en mer d'Irlande, il y a tout juste 20 ans. Avec lui, il a participé à la première navigation du mythique Pendwick, remporté quantité d'épreuves et, ensemble, ils ont essuyé leur premier naufrage. Et c'est parce qu'il vouait à son aîné un respect sans borne que son regard, sans concession, a encore plus de prix.
10e titre.
Alors, le 10e titre, on a aussi un de ces navigateurs qui, à la base, n'est pas forcément... naviguer, mais ce n'était pas forcément cette dynastie de navigateurs. C'est un livre de Fabrice Amedeo qui s'appelle « Seul face au large, mon vent des globes en 100 mots ». Et puis, Fabrice Amedeo, il a décidé, en 2016, de faire le vent des globes. Ce qui n'est pas rien. Surtout, il était journaliste, Figaro, etc. Et il a décidé, il a dû chercher les moyens financiers, techniques, etc. S'est préparé et il a décidé de se lancer dans cette folie solitaire. Il appelle ça son Everest personnel. Donc, mais toujours un lien à la mer, à la montagne, mais toujours, c'est ça. C'est là, c'est soit on grimpe, soit on. C'est là, dans la, il y a toujours cette analogie.
Donc voilà. Les deux ont une certaine précarité.
Ouais, ouais, exactement. Et puis les deux font leur des victimes, chacun, chacune. Et donc, voilà, il raconte cette aventure complètement dingue, mais avec beaucoup d'entrain. Les livres s'appellent « Seul face au large, mon banc de globe en Saint-Mont » et il est disponible avec le numéro 37300.
On pourrait presque parler d'un dictionnaire amoureux de l'océan. Voici la plus grande histoire de ma vie en 100 mots, comme les 100 jours, ou plus exactement, les 103 jours, 23 heures et 1 minute qu'il m'a fallu pour boucler mon premier Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Vendée Globe est un condensé de vie. Chaque jour, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis enthousiasmé, j'ai espéré, j'ai souffert, je me suis dépassé. Un véritable parcours du combattant de plusieurs mois, constitué d'étapes à franchir et d'épreuves à surmonter, heureusement jalonné de moments dont la beauté est décuplée par l'intensité de l'aventure. De sa plume alerte, Fabrice Amédéo nous emmène dans son sillage, celui d'un homme heureux en mer, qui a vaincu son Everest. Je suis parti en imaginant que j'allais conquérir le monde, que j'allais braver les océans les plus difficiles de la planète, m'accrocher au sillage des meilleurs marins français. Mais c'est mon propre monde intérieur qui s'est révélé à moi au bout de ces 103 jours de solitude.
Alors, 11e titre.
Alors, l'11e titre, c'est un livre de Robert Le Sérec. Tous ces noms qui évoquent la Bretagne, ces régions par là-bas, hein. Les Sérec, alors ça s'appelle « Le tour du monde, 5 ans à la voile en thonier
». T'as fait exprès, là. Non, parce qu'il faut dire aux auditeurs que mon bateau, c'est un thonier.
Ah, mais tu vois.
Ouais, ouais.
Donc quoi, tu peux, ça t'est peut-être donné une idée.
Hein. Oui, oui.
Alors. Voilà, donc alors, comme un thonier comme les tiens, alors, c'est, mais bon, un petit peu plus, en 1958, hein, ils ont pris ces bateaux, qui s'appellent les Saint-Yves d'Armor, et alors ils l'ont retapé, bien entendu, ils l'ont construit. Les tiens, ils font combien de mètres, Marc?
8 mètres 20.
Bon. Là, c'est 21 mètres. C'est un gros machin. Enfin, c'est pas mal, les tiens. Mais...
Oui, ouais, bah, le Saint-Yves d'Armor, il faisait 80 tonnes. Ouais, le mien, ils l'ont fait 5. Bon.
Donc, oui, mais alors, les princes, c'est grosses bêtes. Et ils vont se lancer autour du monde. Ils vont d'est en ouest, ils vont suivre les routes des grands navigateurs, ils vont aller jusqu'aux îles Amoir, ils vont passer par les îles Vierges, donc voilà. Ils vont s'éclater sur ces thoniers et l'expérience est racontée justement dans ce livre « Autour du monde, 5 ans à la voile en thonier » avec les numéros 19006.
En 1958, ils acquièrent le Saint-Yves d'Armor, un des rares thoniers pratiquant encore la pêche à la voile. 2 années sont nécessaires à Robert et Raymond Le Sérec pour rendre habitable et armée cette coque de 21 mètres avant de s'élancer sur la route qui mena d'est en ouest autour du monde tant de célèbres navigateurs. Alain Gerbaud, Le Toumelin, Van de Ville, Le Saint-Yves d'Armor, oiseau du large, déploie comme des ailes ses voiles cachou et vole vers le Maroc, les îles Vierges, les Bahamas, les Galapagos, les Samoa. Autour du monde est le récit vivant de ses 5 années de navigation. Robert Le Sérec nous fait partager la chaude ambiance du bord, ressentir l'attente de la terre que l'on ne voit pas encore, mais que l'on sent déjà, découvrir les fonds de coraux multicolores, etc. Mais c'est aussi le récit d'un drame. Le Saint-Yves, dévié par un fort courant, heurte un récif de la barrière de corail, non porté sur la carte. Pour l'auteur, Plus qu'une perte matérielle, c'est un drame moral. Mais, organisant le sauvetage avec lucidité, il parvient à ramener tout le monde sain et sauf sur une île où ils sont recueillis par un cargo. Pendant 5 mois, Robert Le Sérec sillonne les îles de la barrière de corail pour une compagnie de TV. C'est dans cette région qu'il découvre un animal géant inconnu qu'il parviendra à photographier et à filmer.
Alors, le deuxième titre que tu connais peut-être aussi, puisque c'est quelqu'un d'inconnu, c'est d'une femme. Enfin, une autrice, femme qui parle de la mer, mais il y en a d'autres, il y en a plein. C'est Isabelle Autissier. Mmh. Alors, Isabelle Autissier, on connaît. Et en l'occurrence, bien que ce soit un roman, mais qui est inspiré des choses réelles, ça s'appelle « Seule la mer s'en souviendra ». Tu le connais ?
Non, celui-là, je ne connais pas.
Alors, ça s'appelle Seule la mer s'en souviendra, d'Isabelle Autissier. Et puis, ça se déroule à la fin des années 60. Un monsieur nommé Peter March, il décide de participer à la première course en solitaire sans escale. Et alors que, bon, il était, bien sûr, il était la mer, mais ce n'était pas son métier à la base. Il a construit un trimaran lui-même. Et on voit que la mer, c'est justement c'est un désir aussi, d'une certaine manière, pour certains, de se libérer de tout, d'être un peu au-dessus, au-delà, ou en deçà du reste du monde. Parce qu'il disait que comme ça, il était libre et que personne ne s'est soucié de lui. Alors, probablement sa famille s'en souciait, mais il voulait, c'est lui plutôt qui se sentait au-delà des soucis du monde. Dans ses voyages, qui racontait la belle plume d'Isabelle Autissier, s'appelle « Seule la mer s'en souviendra » et il est disponible avec le numéro 16456. Et avec celui-là, on finit notre sélection marine.
Merci beaucoup, Benigno.
Ouais, écoute, c'est un plaisir. Et bon vent.
Ouais, on essaiera.
En 1969, Peter March, bon marin, père de famille, amateur de défis, se lance dans l'aventure. Participer à la première course en solitaire, autour du monde et sans escale. Pas seulement pour y inscrire le nom de Sail Ahead, le trimaran révolutionnaire que cet électronicien fantasque a construit de ses mains, mais pour revenir en pleine gloire, s'inventer un destin. Ici, je suis libre, personne pour me contrarier, pour exiger quoi que ce soit. C'est comme si je n'existais plus, puisque personne ne se soucie de moi. De déception, un accident, seul face à la mer, sans autre repère qu'une conscience de plus en plus chancelante, Peter March fabrique le plus fascinant des mensonges jamais commis sur un voilier. Il invente sa position. Le roman d'un tricheur ? S'inspirant de son expérience de navigatrice en solitaire autant que d'un célèbre fait divers, Isabelle Autissier raconte avec fascination l'affrontement entre un homme et l'océan, entre la raison et la folie.